MCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement de maturité spirituelle. Vous voyez déjà sur la table, c'est vraiment une table de véritables disciples de Christ. C'est ça ce qu'on veut, faire de vous des disciples de Jésus-Christ, capables de connaître la parole de Dieu et de vivre la vie de Jésus-Christ parce qu'un disciple accompli est comme son maître. On a commencé maintenant, depuis longtemps, étudier en fait le bien fondé de méthodes dans l'étude de la parole de Dieu. On a appris une méthode dite inductive qui est faite d'observation, interprétation ainsi qu'application. Et aujourd'hui, je me suis promis, on en avait parlé, on va se dire quels sont les outils dont on a besoin pour agrandir le contexte de notre compréhension. Quelquefois, on a besoin de certains éléments autour qui sont des éléments de la Bible, mais qui ont été agrégés, rassemblés d'une certaine manière qui nous aident à mieux utiliser la Bible. On va parler que de ça. Au bout de cette émission, vous allez devenir un bon érudit qui sait où aller chercher quelle information pour mieux comprendre la parole de Dieu. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Quels outils pour étudier la parole de Dieu? Je vais commencer par vous dire que vous n'avez pas besoin d'autre chose pour la Bible que la Bible elle-même d'abord. Ce qui veut dire le tout premier outil pour pouvoir bien étudier la Bible, c'est une bonne version de Bible. Lors des précédentes émissions, je vous ai expliqué la différence entre une version et une traduction. Chaque version est fondamentalement basée sur une traduction. Il y a une traduction dite littérale et une traduction dite dynamique, ou formelle et dynamique. Quand vous avez choisi la version que vous allez étudier, cette version-là est certainement basée sur une traduction. Ma suggestion a toujours été que vous puissiez avoir les deux types de versions. Une version formelle ou mot, une traduction mot pour mot, et une traduction qui est dynamique ou une traduction paraphrasée. Alors vous avez, moi dans mon cas, généralement quand j'ai une Bible Second de 1910 ou Second de 21, j'ai alors à côté une parole vivante, une Bible français courante ou parole Levi ou Bible de Semeur. J'ai toujours ces deux versions. Mais une bonne version de Bible est l'outil principal dont vous avez besoin pour lire la Bible et pour bien étudier la Bible. Parce que vous ne pouvez pas encore comprendre la Bible sans l'avoir lue elle-même. Donc, il faut lire la Bible. Tentez de ne lire que la Bible, elle et elle seule, de toutes les manières possibles pour essayer de comprendre. Alors, quand vous avez encore des zones d'ombre, il y a beaucoup d'autres outils que vous pouvez consulter qui peuvent vous résoudre ce problème-là en un rien de temps. Voici quelques outils, je le précise, quelques outils, il y en a tellement. Mais vous savez, le but de cette émission, c'est de bâtir petit à petit. Un jour, peut-être, on reviendra sur ce sujet et il faudra qu'on monte en quittant le lait vers une nourriture solide. Votre table devrait ressembler à quelque chose dans ce genre où vous avez vos Bibles, vos dictionnaires bibliques, vos commentaires bibliques. Ou alors, peut-être, à utiliser la technologie aujourd'hui, ça peut juste ressembler à ça, comme ce iPad, et ça vous suffit pour avoir beaucoup d'autres choses, ou votre ordinateur. Mais quel genre d'outils vous pouvez avoir? Premièrement, ce qu'on appelle une concordance biblique. Ces outils sont devenus un peu obsolètes pour certaines personnes, mais ils sont d'une grande utilité. Une concordance biblique fournit une liste alphabétique des principaux mots de la Bible avec le contexte immédiat de chaque mot. Si vous avez des moyens financiers limités pour acheter des documents, bon, ça existe. Vous pouvez trouver d'autres formes de concordance sur Internet, il y en a. Et une concordance est utile de trois façons. Pour localiser toutes les références à un mot, pour localiser un texte particulier, pour trouver l'essence d'un mot. Quand vous avez une concordance avec vous, vous la prenez à l'intérieur, vous dites « j'ai besoin de chercher le mot, je cherche le passage où on a dit « le juste vivra par la foi ». Une concordance vous aidera normalement à chercher sur le mot juste. Vous cherchez juste sur une concordance biblique. Vous voyez tous les textes, tous les versets qui ont trait au mot juste dans la version que vous avez. Et à côté, on met une petite phrase pour que vous sachiez le contexte dans lequel le mot juste se trouve. Et après, les versets bibliques de référence. Ça vous aide beaucoup. Surtout quand vous êtes en train de faire une étude et vous dites, j'ai déjà vu ça quelque part, j'ai déjà vu ce terme ici, j'ai déjà vu quelque part, c'est où ? Vous allez vivre dans une concordance. Ça, c'est dans les cas où vous n'avez pas de moteur de recherche et vous n'avez que des documents dans la salle, dans votre pièce où vous êtes en train d'étudier. Mais si vous avez aujourd'hui, avec la technologie, vous avez peut-être déjà un moteur de recherche, c'est plus facile. Vous n'avez qu'à taper le mot. Et du coup, le moteur de recherche dans la Bible vous donne tous les passages qui en parlent. Et c'est en fait cette logique-là est une logique de concordance biblique. Le but, c'est de vous chercher le mot que vous êtes en train de chercher, le verset dans lequel il est écrit, et ça vous donne de petits textes pour que vous sachiez le contexte dans lequel le mot est sorti. Vous cherchez, par exemple, un mot aussi présent dans la Bible comme « juste ». Vous aurez beaucoup de « juste ». Juste comme « justice », celui qui est juste de « justice ». Vous aurez aussi « juste » comme « juste de « justesse ». Le fait que les choses se sont faites avec justesse. Alors, comment savoir que c'est juste ici, c'est justice ou justesse? Alors, ça va sortir avec une petite courte phrase qui est autour du mot juste, le début ou la fin. Et ça sortira comme ça, et ça te fait ce qu'on appelle une concordance. En ayant juste une seule Bible comme ça, sans ordinateur, sans rien, pendant que vous êtes en retraite, en train de prier quelque part, il existe ce qu'on appelle des Bibles d'études. Qui, au bout desquels, vous pouvez trouver des concordances. Vous pouvez trouver une concordance dans une version de Scofield, vous pouvez trouver une concordance dans une version de John MacArthur, vous pouvez trouver une concordance dans une version d'Esprit et Vie. Il y a des livres, des Bibles, vous pouvez trouver une concordance à la fin. Il y a aussi ce qu'on appelle des dictionnaires bibliques. Un dictionnaire est dit biblique parce que c'est un dictionnaire dans lequel on ne cherche pas tous les mots de la langue. On cherche plutôt les mots qui sont dans la Bible. On prend le mot le plus simple, en commençant par, bien sûr, la lettre A. A, ça signifie quoi dans la Bible? Après, généralement, très souvent, j'ai toujours vu A, et puis j'ai vu Aaron. A, on dit A, c'est l'équivalent de la lettre alpha, de la lettre aleph, alpha en grec, aleph en hébreu, et on commence à vous expliquer ce que le A peut signifier. Et puis après, vous avez le mot « Aaron ». On commence à expliquer ce que le mot « Aaron » signifie. On va partir comme ça des « A » jusqu'à « Z », en partant de tous les mots clés que vous trouverez dans la Bible. Où vous les trouvez? Quelle en est la théologie? Qu'est-ce que ça signifie? Combien de fois ça apparaît? C'est ce qu'on appelle un dictionnaire biblique. Vous pouvez avoir un dictionnaire biblique où il y a des définitions et des emplois de contexte originel. Il y a des dictionnaires bibliques qui commencent par l'explication d'abord du mot, où ça commence par vous dire Aaron, ça vous écrit comment c'est écrit en hébreu, ça vous montre le sens du mot Aaron, ça vous dit pas seulement l'individu Aaron, mais Aaron, le mot Aaron en hébreu signifie quoi dans votre langue, et ça vous parle de l'individu Aaron, et s'il existe un autre Aaron dans la Bible, ça vous parle de ces Aarons-là, en vous donnant bien évidemment les versets bibliques nécessaires. C'est un outil très utile parce que après ça vous résume quelque chose que vous êtes en train de chercher. Vous dites bon, Galates là, on était en train d'étudier les textes de Galates. Vous allez trouver le mot Galates, ça va vous expliquer ça signifie quoi, dans quelle langue, ça se trouvait où. Paul a écrit de Galates là, c'était la Galatie, se trouvait à quel endroit. Ça vous donnait autant d'informations nécessaires sur le mot que vous êtes en train de chercher. Aujourd'hui encore, il continue à se vendre des gros dictionnaires comme ça, des dictionnaires bibliques qui sont écrits, qui sont imprimés. Et si vous pensez que c'est dur à porter, moi je vous conseillerais toujours d'en avoir, c'est toujours intéressant. Dans les cas contraires, il y en a tout plein sur Internet. Certains qui sont même libres de droit, que vous pouvez acheter, ou pouvez posséder, ou pouvez consulter en ligne. En tapant un mot qu'il y a dans la Bible, ça va vous donner directement le sens de ce mot-là, et les éléments qui sont à l'intérieur. Ça vous aide beaucoup en dictionnaire biblique. Ça vous fait gagner en temps. Quatrièmement, les lexiques bibliques. Les lexiques bibliques sont en fait des genres de, je vais dire de dictionnaires, ouais, genre de dictionnaires de cette version de Bible-là. La Bible que vous avez avec vous, on va y chercher les mots difficiles. Ça donne des références dans lesquelles le mot est utilisé, bien sûr, mais des définitions de ce mot, de courtes définitions de ce mot. Le lexique est généralement très court par rapport au dictionnaire. Un mot, explication. Pendant que le dictionnaire lui dit un mot, explication, origine en grec, combien de parutions c'est dans la Bible, et ça donne carrément presque une petite théologie là-dessus. Mais le lexique, d'habitude, vous le trouvez comme un résumé des mots difficiles au bout de votre Bible. Surtout les lexiques les plus complexes, les plus intéressants, je vais dire, ce sont les lexiques en langue originale, c'est-à-dire les lexiques grecs ou les lexiques hébreux. Là, vous allez trouver maintenant les mots en langue originale, leur signification en langue originale, leur signification, leur sens dans la langue des traductions, la langue que vous parlez, la langue vernaculaire, la langue dans laquelle les choses ont été traduites. Donc, les lexiques aident énormément, surtout quand vous faites une étude des mots. Vous allez bien vous retrouver en cherchant les lexiques. Et puis aussi l'encyclopédie. Ça énumère aussi des divers sujets. Ici, vous n'avez plus seulement affaire à des mots qu'on explique. Vous avez aussi affaire à des sujets qu'on explique. C'est-à-dire, vous ne trouverez pas un mot comme la doctrine des anges. Vous trouverez un mot comme ange. On expliquerait ange dans un dictionnaire, mais vous ne trouverez pas un mot comme « doctrine des anges » ou « angélologie ». Mais dans l'encyclopédie, vous le trouverez. Dans le dictionnaire, vous ne trouvez pas « angélologie » parce que ce n'est pas un mot dans la Bible. Mais dans l'encyclopédie, vous le trouvez parce que c'est un mot dans la foi chrétienne ou dans l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, des fois, vous avez affaire à des concepts qui sont bibliques, mais leurs mots ne sont pas dans la Bible. Alors, vous prenez cela. Par exemple, dans un dictionnaire biblique, vous ne trouverez pas le mot « Bible » lui-même. Mais dans l'encyclopédie, vous trouverez probablement le mot « Bible » parce que ça fait partie des réalités de la Bible. Les mots sont définis avec plus de détails, les théologies sont bien données, les contextes sont bien donnés, l'histoire, l'archéologie de foi est présentée même dans ça. Comme je ne cesse pas de le dire, il existe en dur, mais ces choses aussi existent en ligne ou dans les applications. Si vous allez sur le site internet de RMCI TV, vous trouverez que le site internet RMCI a déjà quelques outils lui-même, des outils comme ça qui peuvent vous aider. Il y a ce qu'on appelle le commentaire biblique. Alors, un commentaire biblique, c'est le fait que d'autres érudits de la parole, d'autres théologiens, ont étudié la Bible et vous donnent un résumé de l'explication. Après qu'ils aient fait le OIA qu'on a appris ensemble, observation, interprétation, application, vous donne un court résumé de ce verset ou de ce chapitre qui peut vous aider à comprendre de quoi il s'agit. S'il y a un mot grec, un mot hébreu qui tient toute l'explication du sujet, il le développe pour vous en bas. S'il y a une répétition de ce concept quelque part, il vous prévient déjà que ce concept signifie ceci. Donc, mot à mot, ou verset après verset, vous pouvez trouver un petit commentaire, une courte explication brève. Alors, les commentaires, on en a ce qu'on appelle des commentaires compréhensifs et ce qu'on appelle des commentaires explicatifs. Un commentaire compréhensif, c'est un commentaire générique qui, en fait, est une forme d'interprétation de l'auteur. Pendant qu'un un commentaire explicatif, c'est beaucoup plus une forme d'exégèse où l'auteur vous prend chaque verset et il explique les réalités théologiques qu'il y a là-dedans. Il vous dit, par exemple, ce mot signifie ceci, dans cette langue, la structure grammaticale, qu'est-ce que ça veut dire, la théologie autour de ce mot-là. Il y a beaucoup plus de détails dans un commentaire explicatif. Le commentaire compréhensif a pour vous but de vous aider à comprendre et à vivre votre dévotion par rapport à ce texte-là, pendant que le commentaire explicatif a pour but de vous donner plus d'angles de vue dans 360 degrés sur les possibilités qu'il y a dans l'interprétation de ce texte-là. Alors, quand vous allez prendre votre commentaire, l'acheter ou le consulter en ligne, tenez compte de ce fait que le compréhensif existe et l'explicatif existe. Alors, faites bien attention sur ce que vous êtes en train de chercher comme information dans un commentaire. Alors, les commentateurs, il y en a plusieurs. Il y a des commentateurs personnels, il y a des commentateurs collectifs, il y a des maisons de commentaires. Alors, sachez-le bien que vous-même, en tant que lecteur, vous devenez, sans le vouloir, un commentateur de la Bible. Mais regarder les commentateurs ou lire les commentaires bibliques, c'est intéressant parce que ça vous permet de voir comment les autres ont vu le texte. Ça vous permet aussi de vous rassurer de certaines choses que vous avez compris vous-même. Et ça, c'est une chose qui sera vraiment fantastique dans ma Bible que MCI est en train de travailler. Bon, je ne vous en parle pas plus. Il y a aussi ce qu'on appelle l'atlas biblique. Ça, c'est seulement le côté géographique et localisation. Vous vous souviendrez que je parlais avec vous ici que quand vous êtes en train d'observer un texte, vous devez savoir le lieu où il se trouve. Alors, Jésus-Christ quitte Jérusalem. On lui dit que, voilà, Lazare est mort à Béthanie. Après, il arrive des jours déjà, Lazare est mort. Lazare est malade, il ne vient pas, Lazare est mort, il est venu. Et quand il arrive, on dit, il sent déjà. Combien de temps ça lui a pris? Il est arrivé à quel jour? Quelle est la distance que ça lui a pris de cette partie-là pour arriver à l'endroit où Lazare est mort? Ça, vous calculez ça à travers l'atlas. L'atlas biblique vous donne la géographie biblique, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Ça vous montre, par exemple, les voyages de Paul. Quand on dit Paul a voyagé, premier voyage, il était de tel endroit jusqu'à tel endroit. Dans vos Bibles de foi, vous avez juste des petits éléments de géographie comme ça, qui existent dans vos Bibles, où vous trouvez juste le 12 tribus d'Israël, où vous trouvez l'ancien Proche-Orient, comme il y en a ici. On vous montre très bien les localisations de frères, des tribus d'Israël ici, par exemple. On vous montre où se trouvait Éphraïm, où se trouvait Gad. Comme ça, vous savez, quand on divisait le terrain, quand on divisait la terre promise, comment on l'avait répartie. C'est très important de savoir, parce que quand les hommes de la Bible voyagent et se déplacent, vous devez savoir pourquoi il est sorti directement à tel endroit. Vous connaissez la géographie, où ça se trouvait. Et j'ai déjà entendu et vu certaines personnes confondre l'Asie qu'il y a dans le Nouveau Testament et l'Asie qui est aujourd'hui, l'Asie en tant que continent, et cette partie de l'Europe qui a été conquise au nord, qui s'appelait l'Asie, à l'époque de la Bible. Alors, tout cela devient plus clair quand vous regardez dans l'atlas biblique. L'atlas biblique vous permet aussi de voir, OK, cette chose ou cet endroit, ce pays, ce coin du monde s'appelle actuellement comme ça. Tu sais que, oh, si je veux aller à cette partie de la Bible, je dois aller aujourd'hui en Turquie. Si je veux aller à cette partie de la Bible, je dois aller aujourd'hui en Grèce. Si je veux aller à telle partie de la Bible, je dois aller aujourd'hui en Égypte. Mais toutes ces parties ne s'appelaient pas toujours comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Éthiopie, ce n'est pas la grandeur de l'Éthiopie de la Bible. L'Éthiopie de la Bible était beaucoup plus grand que juste la partie du pays appelée Éthiopie aujourd'hui. C'est l'atlas biblique qui va vous donner plus d'informations sur ces localisations et c'est très important. Huitièmement, les manuels thématiques. Les manuels thématiques sont des documents organisés qui mettent les listes des sujets majeurs, donne des index en chaîne, comme on dit. Ça donne les grands sujets majeurs de la Bible et des versets ou des textes qui vont avec. C'est quelque chose qui est vraiment très courant dans la Bible, par exemple, de Scofield, où il met les grands titres, les grands sujets importants. Par exemple, si vous trouvez un sujet comme le mariage, ça fait comme une petite sorte de table de matière pour aborder le sujet du mariage. D'où vient le mariage? Et ça te met les versets. Quand Dieu a institué le mariage, ça te met les passages. Quelles sont les obligations de l'homme dans le foyer? Ça te met les passages. En fait, à partir, ça prend un thème, ça fait comme un développement, comme une table de matière, et ça te donne directement les passages appropriés de chacune de ces tables de matière. Ça, c'est ce qu'on appelle des manuels thématiques. De fois, il y en a pas dans, à la fin de certaines versions de Bible, il y en a comme un document à part, où il n'y a que les manuels comme ça de thèmes. Vous avez des documents, par exemple, qu'on appellerait manuel des réponses des questions difficiles de la Bible. On prend que les questions et les textes complexes de la Bible, on y donne les références bibliques. D'où vient la femme de Caïn? Il y a des manuels comme ça qui ne font que toucher des thèmes de bout en bout. Puis vient ce qu'on appelle les guides bibliques. Les guides bibliques sont un peu des résumés en volume d'informations qui comprend les cartes, bien sûr, et les définitions utiles de l'information sur la Bible. C'est par exemple des documents dans lesquels vous trouvez des introductions à des livres. Ils ne font que des introductions dans le livre. Ils vous disent, bon, introduction au livre de Galates. Ils vous montrent la ville de Galates, comment c'était à l'époque, vous avez des dessins, la vie des gens de Galate, ça ne donne que quelques informations génériques sur l'introduction d'un livre ou comment ce livre est réellement écrit. Puis vous avez un merveilleux document, un manuel que j'aime beaucoup, qu'on appelle « Les manières et les coutumes de la période de la Bible ». Les manières et les coutumes de l'époque de la Bible. Il a été fait un merveilleux travail théologique où on a regroupé tous les versets bibliques qui demandent des explications culturelles et tous les faits culturels de l'époque de la Bible. C'est-à-dire, dans ce manuel, on va de Genèse à Apocalypse, première approche, et deuxième approche, on va de style de vie. Dans l'un de ces documents, on va de Genèse à Apocalypse, c'est-à-dire Genèse, on voit tous les versets bibliques qui ont besoin d'explications culturelles. On dit par exemple, ah, pourquoi il a mis un anneau à celle qui devait être la femme de Rebecca, à celle qui devait être la femme d'Isaac. Pourquoi Eliezer lui a placé l'anneau? On vous explique à l'époque, ça voulait dire ceci. C'est pourquoi il faisait ceci. On explique l'époque, les habitudes et les coutumes de l'époque. L'autre approche de ce document appelé les manières et coutumes du temps de la Bible, on fait que réciter les événements culturels. On dit naissance, on explique la naissance, comment les gens naissaient. À leur époque, la naissance voulait dire quoi? Pourquoi on donnait à un enfant le nom à la naissance? On vous explique tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et puis on vous explique mariage. Comment ça s'est passé chez les Juifs? Dans les peuples qui ont influencé les Juifs dans l'Ancien Testament. En Grèce, comment ça s'est passé? Les peuples qui ont influencé les Juifs au Nouveau Testament. Alors, c'est un document fantastique qui vous aidera beaucoup à comprendre tout ce qui concerne les contextes. Onzièmement, vous avez ce qu'on appelle l'interlinéaire. L'interlinéaire est en fait un document qui vous présente les textes originaux avec une traduction, pas une traduction, avec une reprise littérale mot à mot. Parce qu'on ne traduit pas dans l'interlinéaire. C'est à peine qu'on donne l'impression de traduction. Je vous explique. Vous avez votre Bible en français. Je vais prendre un texte très facile. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, je viens de lire ça de gauche à droite parce que c'est le français. Mais l'hébreu, lui, se lit de droite à gauche. Bereshit, Bara, Elohim. Ça se lit différemment. La manière dont l'hébreu va placer les mots de droite à gauche, ce n'est pas comme ça que le français le place. Donc, l'interlinéaire va te laisser l'hébreu au-dessus et va te mettre juste en dessous les mots équivalents qui viennent. Il te met Bereshit, qui veut dire commencement, Bara, qui veut dire créa, Elohim, qui veut dire Dieu. Ça te met ce mot-là comme ça. Donc, tu auras comme mot, et à l'envers. Mais au moins, ça te permet de savoir les mots littéralement tels qu'ils viennent de textes originaux. C'est pourquoi vous entendez gens dire, dans les textes originaux, c'est dit comme ça. Dans les textes originaux, c'est dit comme ça. C'est parce qu'ils consultent ce qu'on appelle l'interlinéaire. Et l'interlinéaire, à ce moment-là, il ne se soucie pas d'abord de donner un sens. Il se soucie de juste donner la traduction du mot. Une langue, une autre. Une langue, une autre. C'est ce qu'on appelle l'interlinéaire. Et il y a un des moyens très intéressants par lequel aujourd'hui beaucoup de personnes trouvent le moyen de découvrir ce qu'il y a dans les textes, c'est la merveilleuse étude d'un théologien appelé Strong. Strong a pris toute la Bible, comme si on prenait un dictionnaire. Au lieu de le prendre comme un dictionnaire, il a pris vraiment comme si c'était la Bible elle-même. Chaque mot de la Bible, je dis chaque mot de la Bible, il y a mis un chiffre dans les textes originaux, en hébreu, araméen, grec. Il y a mis un chiffre. Si Aleph, la première lettre en hébreu, c'est la Aleph, il met un chiffre, je donne un exemple, 0001. Partout, il y aura les Aleph seul, il y aura 001. De sorte que celui qui ne connaît pas les langues de la Bible, en connaissant les chiffres, si je peux retrouver 001, je sais que j'ai retrouvé Aleph partout. Même si dans la langue où je suis, on n'a pas traduit cela comme ça, mais je sais que le mot à l'intérieur est celui-là. Donc même pour celui qui n'a pas, qui sait pas comment lire l'interlinéaire, à travers ces numéros strong, il peut retrouver les mots originellement traduits à cet endroit-là. Et Strong se donne les devoirs. Une fois que vous retrouvez le mot, il vous dit aussi sa traduction littérale. Il vous dit aussi comment l'auteur, en fait, généralement c'est fait pour les Bibles Second, les Bibles King James, comment King James a traduit ça, ce mot-là, combien de fois il paraît. Et à partir de Strong, tu peux faire une recherche du mot dans le texte original. J'espère ne vous avoir pas perdu. Je donne un exemple comme ça. Je suis en train de chercher le mot Réma. Mais j'ai une Bible en français. Comment je trouverai là où Réma apparaît? Si je lis parole, parole, parole en grec, ça peut être logos. Comment je saurai que c'est Réma? Alors, Strong dit que Réma, quand il a répertorié les mots, c'était les mots 0400, 04, 04827. Je donne un exemple. Alors, je vais prendre 04887. Je cherche partout où je trouverai 04887. À cet endroit, même si le mot qui est traduit ne donne pas parole, le mot qui est là, en réalité, c'est le mot Réma. Belle étude, n'est-ce pas? C'est plus facile. Il y a de gros documents de Strong, comme ça, là, gigantesques. Mais aujourd'hui, avec la technologie, les méthodes de recherche, les outils de recherche existent. Vous pouvez juste taper et trouver directement dans un système de numéros strong. Soit dit en passant, sur le site internet de MCI, vous trouverez des numéros strong. Si vous êtes en train de faire votre étude, vous pouvez y aller dessus et vous pouvez trouver les numéros strong sans aucun problème. Et la dernière chose ou le dernier outil que je voudrais partager avec vous, c'est justement ce qu'on appelle des programmes bibliques, les programmes électroniques de la Bible. Aujourd'hui, il y en a tout plein, je ne sais pas lequel vous recommandez, mais il y a tout plein de programmes électroniques de la Bible ou alors des applications. Il y a beaucoup d'applications de la Bible dans lesquelles vous trouvez beaucoup de versions de Bible, vous trouvez des commentaires bibliques, vous trouvez même des images d'Atlas en 3D où vous voyez vraiment très bien comment ça se présente. Il est important que quand vous êtes en train d'étudier la Bible, vous puissiez visualiser la même chose que les gens de l'époque, le maximum que possible. Quand vous dites montagne, ne regardez pas les montagnes de chez vous. Les montagnes d'Israël, c'est une autre réalité. Quand vous dites lac, il serait bien que vous puissiez vous imaginer les véritables lacs de l'époque de la Bible. Et ces programmes électroniques de la Bible, il y en a tout plein. La plupart d'entre eux les ont transformés aussi en des applications. Et ces applications sont sur nos téléphones. Quand vous avez des versions de Bible, des commentaires bibliques, des lexiques, toutes ces choses que je vous ai dit. De fois, on a tendance à les mettre à l'intérieur. Et même plus. Il y a quelque chose que nous sommes en train de faire avec MCI sur l'application appelée Ma Bible. Vous allez aimer. Vous allez aimer non seulement d'avoir les commentaires bibliques comme des textes, mais des commentaires bibliques comme des explications. Imaginez-vous que vous arrivez à ce texte de la Bible, à cet endroit-là, vous entendez une voix comme la mienne en train de vous l'expliquer. Pas juste le lire, mais en train de vous l'expliquer. Mot à mot. Ça va être fantastique. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de vraiment découvrir cela. J'espère avoir partagé suffisamment d'informations qui peuvent vous aider à savoir qu'est-ce que vous devez chercher quand vous entrez dans une librairie ou qu'est-ce que vous devez chercher quand vous êtes sur Internet, quel genre de programme vous devez acheter, quelle application vous devez installer chez vous, quel genre de choses dont vous avez besoin pour compléter certaines informations quand vous en avez besoin dans votre étude de la Bible. J'espère que cela vous a plu et que ça a été utile dans votre façon de vous préparer et dans votre façon d'appliquer la parole de Dieu en tant que disciple de Jésus-Christ. Pour l'instant, je vous dis que demain, on va clôturer tout ceci et ça va être la méthode déductive. Vous allez voir, ça va être intéressant. Let's teach. Grandissons ensemble.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.